France Inter.
Bonsoir Céline Asselot.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
À la une du 18-20 et du premier journal de la soirée, le nouveau traitement contre la bronchiolite a permis d'éviter des milliers d'hospitalisations.
Oui, pari gagnant pour les autorités sanitaires. Elles avaient misé sur le Befortus pour tenter de limiter l'épidémie de bronchiolite qui touche chaque hiver de nombreux nourrissons. 200 000 doses ont été administrées et ça marche. Précision au début de ce journal. Détruire les infrastructures ferroviaires en Ukraine et empêcher ainsi le transport de matériel militaire. On verra que c'est la nouvelle stratégie de la Russie face au renforcement de l'aide américaine. Total Energy va-t-il partir à Wall Street? Le groupe réfléchit à déplacer sa cotation principale face aux critiques sur ses investissements dans les énergies fossiles. Alors qu'en France, les interventions pour impayés de factures d'électricité se multiplient. Le cap du million a été franchi l'année dernière.
On en parlera avec l'invité de ce journal, Frédérique Ferriot, directrice générale du médiateur national de l'énergie.
Des étiquettes trop petites pour que les consommateurs s'y retrouvent. Les agriculteurs protestent contre l'étiquetage des fruits et légumes importés. On ira dans le Vaucluse. On prendra aussi la direction d'Athènes où a lieu en ce moment la grande cérémonie de passation de la flamme olympique. La Grèce la confie à la France pour les Jeux de Paris. On retrouvera Emma Sarango sur place. Et puis à 22 ans, il s'attaque à Vivaldi et au monumental 4 saisons. On découvrira le nouvel album d'un jeune surdoué du violon classique.
Après ce journal, une semaine en France avec Philippe Sansonetti, médecin, chercheur, professeur émérite à l'Institut Pasteur et au Collège de France. Il publie « Microbes sans frontières » aux éditions Odile Jacob. À 19h20, le téléphone sonne. Ce soir, on s'intéressera au mouvement de population post-Covid. Avec cette question, faites-vous partie de ceux qui ont déménagé et changé de région suite à la pandémie? L'attrait du littoral semble en tout cas se confirmer. Même chose pour nombre de métropoles régionales. Vous pouvez déjà nous appeler au 01 45 24 7000. Le standard ouvre à l'instant.
France Inter.
Des dizaines de milliers de bébés à l'hôpital, des urgences pédiatriques saturées. À l'hiver 2022, l'épidémie de bronchiolite avait lourdement pesé sur le système hospitalier. Les autorités sanitaires avaient donc placé beaucoup d'espoir dans le nouveau traitement préventif développé par Sanofi et proposé depuis le mois de septembre, le Befortus, qui vient de faire la preuve de son efficacité. Bonsoir Victor Delonge.
Bonsoir Céline.
De nouvelles études confirment en effet qu'il a permis d'éviter de nombreuses hospitalisations.
Oui, plusieurs études préliminaires suggérait déjà que cet anticorps monoclonal avait permis de protéger à hauteur de 80% les bébés des formes graves d'une infection par le virus responsable de la bronchiolite. Pour cette nouvelle étude, Santé publique France a regardé 300 nourrissons hospitalisés dans une vingtaine de services de réanimation et les résultats sont comparables, comme l'explique Isabelle Parent, épidémiologiste et responsable de l'unité infection respiratoire à Santé publique France.
Le traitement préventif a réduit de 76 à 80% le risque d'hospitalisation en réanimation pour bronchiolite AVRS chez les enfants qui étaient traités par cet anticorps monoclonal comparé aux enfants qui ne sont pas traités.
Et pour avoir une estimation du nombre d'hospitalisations évitées grâce à ce traitement, place cette fois au modèle mathématique. Les chercheurs ont intégré les chiffres sur les hospitalisations des nourrissons après une bronchiolite, le nombre aussi de livraisons du médicament Befortus, et là aussi l'efficacité du traitement est très importante. Simon Cauchemez est responsable de l'unité modélisation des maladies infectieuses à l'Institut Pasteur.
On estime qu'il y a eu à peu près 5800 hospitalisations éviter, ce qui est quand même quelque chose de très conséquent sur cette période. On estime que ça a réduit d'à peu près 23% le nombre total d'hospitalisations pour bronchiolite AVRS.
Pour cette première campagne, il y a juste eu un problème de quantité. Un peu plus de 200 000 doses de Befortus avaient été fléchées pour la France. Insuffisant compte tenu de l'engouement des parents pour ce traitement préventif. Pour l'hiver prochain, le gouvernement a d'ores et déjà prévu une commande de 600 000 doses.
Merci Victor Delonge, spécialiste santé à la rédaction de France Inter. Et toujours dans la perspective d'une meilleure protection des nourrissons, les autorités sanitaires annoncent que la vaccination contre la méningite va être élargie chez les bébés de moins d'un an. Aujourd'hui, seule la vaccination contre les méningocoques C est obligatoire. Désormais, cela concernera aussi les autres souches pour faire face au rebond de ces infections graves. Et puis, concernant cette fois les adolescents, Santé publique France note une augmentation de la vaccination contre le papillomavirus. La campagne avait débuté poussivement dans les collèges. Désormais, on estime que 55% des filles âgées de 13 ans sont vaccinées, 41% des garçons du même âge. Cela reste en deçà des objectifs du gouvernement pour lutter contre le développement de certains cancers.
En Ukraine, la Russie intensifie ses frappes sur les infrastructures ferroviaires.
Oui, cibler le rail pour paralyser les approvisionnements militaires, cela semble être la nouvelle stratégie des forces russes, Étienne Monin. Moscou annonce avoir frappé un train dans la région de Donetsk qui transportait du matériel occidental.
Et cette annonce sonne comme une réponse au soutien américain. Les États-Unis viennent de débloquer une enveloppe de 61 milliards de dollars. Il y a deux jours, le département d'État a révélé aussi que des missiles longue portée avaient déjà été livrés. Moscou n'a pas donné de détails sur le bombardement du train. Ces dernières semaines, les frappes sur les sites et les infrastructures ferroviaires se sont intensifiées. Hier, trois régions ont été touchées. Le train en Ukraine est un important moyen de déplacement pour les personnes, la logistique et les militaires. Depuis l'invasion russe, le trafic aérien a été paralysé. Un haut responsable ukrainien cité par l'agence France-Presse pense que la Russie cherche à paralyser les approvisionnements militaires après avoir visé les installations énergétiques. Le président Zelensky, de son côté, estime que Moscou est parvenu à prendre la main sur le champ de bataille pendant les mois où les États-Unis tentaient de débloquer leur aide militaire.
Les précisions signées Étienne Monin. Et puis la mairie de Kiev annonce de son côté l'évacuation d'urgence de deux hôpitaux, dont un hôpital pédiatrique, en raison d'une vidéo publiée sur les réseaux sociaux qui annonce une attaque sur ces établissements, selon les autorités de la ville. La guerre en Ukraine, qui a fait partie des sujets de tension et de discussion et de tension entre Xi Jinping et Anthony Blinken. Le chef de la diplomatie américaine est en visite officielle à Pékin. Il affirme que l'offensive russe serait plus difficile sans le soutien de la Chine. Le secrétaire d'État américain demande aussi au président chinois d'aider à apaiser les tensions au Moyen-Orient. Xi Jinping lui répond en appelant les États-Unis, je cite, à être des partenaires et pas des rivaux.
Encore quelques minutes, Céline, et la flamme olympique va être française.
Oui, la cérémonie a lieu en ce moment au stade panathéique d'Athènes qui avait accueilli les premiers Jeux olympiques de l'ère moderne en 1896 et où nous allons retrouver notre envoyé spécial. Bonsoir Emma Sorango.
Bonsoir Céline.
Après avoir parcouru la Grèce au cours des dernières semaines, la flamme des Jeux olympiques va être confiée aux organisateurs de Paris 2024 d'ici quelques instants.
Oui, alors allez, d'une Française au moment où je vous parle, Céline, puisque c'est la patineuse Gabriela Papadakis qui vient de la recevoir des mains de la dernière relayeuse grecque, Gabriela Papadakis, qui la passe à l'instant à Béatrice S, l'athlète française la plus titrée et qui vient sur son fauteuil roulant, en fait, encore un tour de piste avec la torche d'une main et puis en poussant ses roues de l'autre main pour tendre la torche et bien au dernier relayeur grec, le capitaine de l'équipe grecque de waterpolo, qui lui aura l'honneur dans quelques secondes du coup d'allumer et bien le chaudron doré grec qui trône en plein milieu de cette piste du stade panathénaïque. Et une fois que ce chaudron sera allumé, eh bien ça y est, la transmission tant attendue aura lieu entre le président du comité hellénique olympique Spyros Kapralos et Tony Estanguet. Et donc c'est une question de secondes, hein, Céline, d'ici 30-40 secondes on pourra dire que la flamme sera française avant que les deux hommes ne transportent cette toute petite lanterne, une petite lanterne de mineur hors du stade pour l'emmener en France à bord du Bélème.
Et bien voilà, on va attendre quelques secondes donc pour officialiser cette étape majeure du parcours de la flamme olympique. Merci Emma Sarango. La flamme qui va donc embarquer demain, vous le disiez, d'ici direction Marseille où 150 000 personnes sont attendues pour l'accueillir le 8 mai prochain et 6 000 policiers et gendarmes seront aussi présents pour assurer la sécurité de l'événement, annonce aujourd'hui Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur. C'est aujourd'hui l'un des fleurons du CAC 40, mais il commence à se demander si l'herbe ne serait pas plus verte du côté de Wall Street. Le groupe Total Energy réfléchit à déplacer sa cotation principale, qui est aujourd'hui à la Bourse de Paris, mais peut-être demain à la Bourse de New York. Bonsoir Maxime Debs.
Bonsoir.
C'est le PDG Patrick Pouyanné qui a lâché cette petite phrase tout à l'heure lors d'une interview.
Ouais, c'est une question légitime, dit-il, pas une question d'émotion, mais une question d'affaires. Patrick Pouyanné qui étaye son propos dans un contexte où l'Europe se détourne de plus en plus des énergies fossiles, que les Européens vendent leurs actions ou maintiennent au mieux leur participation et que dans le même temps, à côté de ça, les Américains achètent. Pourquoi Total Energy ne regarderait pas vers l'Amérique? Une sortie stratégique qui n'étonne pas vraiment Antoine Laurent de Reclaim Finance, ONG qui veut mettre la finance au service du climat.
sur une place financière parisienne, il y a des barrières à la circulation des capitaux entre continents. Donc forcément, les investisseurs ont beaucoup moins de facilité à investir en américain, à investir dans une entreprise européenne. Ça, il y a des coûts fiscaux, il y a des coûts techniques. Donc, considérant que les financiers et les actionnaires européens seraient trop scrupuleux sur les enjeux climatiques, eh bien, ils préfèrent aller chercher de l'argent, des soutiens financiers ailleurs pour continuer comme avant, ce business as usual, à développer des nouveaux champs pétroliers et gaziers.
Total Energy qui continue en effet à produire gaz et pétrole et qui assume de toute façon depuis longtemps les énergies fossiles ne peuvent être remplacées d'un claquement de doigts. Sur ce transfert de la cotation principale à Wall Street, une décision devrait être prise d'ici septembre. Quant au siège du groupe, quoi qu'il en soit, Patrick Pouyanné précise, il restera en France.
Merci Maxime Deb, service économique et social de France Inter. L'énergie de plus en plus chère, de plus en plus difficile à assumer pour les ménages. C'est ce que dit aujourd'hui la Fondation Abbé Pierre qui s'inquiète des chiffres publiés aujourd'hui par le médiateur national de l'énergie. L'année dernière, il y a eu plus d'un million d'interventions pour impayés de factures. Dans un cas sur quatre, cela a donné lieu à des coupures d'électricité. Et on va en parler, Claire, avec votre invité.
Effectivement. Bonsoir Frédéric Ferriot.
Bonsoir Claire.
Directrice générale du médiateur national de l'énergie, Céline Aslot le disait, plus d'un million d'interventions pour impayés en 2023, c'est tout simplement un record. C'est clairement le prix de l'énergie et notamment de l'électricité qui est en cause.
C'est l'analyse qu'on en fait. Hein. Donc, on avait déjà des indicateurs fin d'année dernière qui montraient que les Français avaient de plus en plus de mal à payer leurs factures et se restreignaient sur leur chauffage. Et effectivement, comme l'électricité a beaucoup augmenté ces derniers mois, c'est une partie de l'explication.
Qui vous saisit en majorité? Ce sont des particuliers, des entreprises également?
Alors, on peut intervenir en médiation pour résoudre des litiges de particuliers et de TPE, donc des entreprises qui font moins de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires et qui emploient moins de 10 personnes.
Quels sont les fournisseurs d'énergie qui sont concernés? Les fournisseurs d'électricité avant toute chose?
Alors, bon, de toute façon, il y a 33 millions de compteurs d'électricité, 10 ou 11 millions de compteurs de gaz, donc c'est majoritairement de l'électricité. Après, tous les fournisseurs d'électricité et de gaz ont des clients qui ne parviennent pas à payer leurs factures et sont amenés à demander des coupures de gaz ou d'électricité ou des réductions de puissance en électricité.
Alors, qu'est-ce qui se passe quand il y a un litige, quand vous êtes saisi, quand il y a des impayés? Vous demandez d'abord une limitation de la puissance électrique. C'est vous qui demandez ça ou ce sont les fournisseurs qui font ça?
Les coupures d'électricité ou de gaz ne font pas nécessairement suite à un litige, bien heureusement. Elles font suite à des impayés de factures et on n'est pas du tout en capacité, c'est pas notre rôle d'intervenir à chaque fois qu'un consommateur n'arrive pas à payer ses factures. La demande qu'on fait dans notre communication, ça fait plusieurs années que le médiateur national de l'énergie la réitère, c'est qu'en fait, il y a une évolution de la législation pour qu'il ne soit plus possible de couper l'électricité pour impayé. L'électricité, c'est un produit de première nécessité et donc le médiateur national de l'énergie demande au pouvoir public de faire évoluer la loi pour que quand il y a un impayé et qu'il faut intervenir, le fournisseur ne peut plus fournir son client, eh bien il y ait une puissance minimale qui soit laissée pour permettre aux gens quand même à la fois de rechercher une solution et puis de faire face à leurs besoins essentiels.
Il n'y a pas de coupure d'électricité pendant la trêve hivernale. La Fondation Abbé Pierre demande que ce soit toute l'année. Vous rejoignez cette
oui,
revendication
c'est ce que,
vous la soutenez?
Exactement, c'est ce que je viens d'expliquer. En fait, nous, on demande à ce que les coupures d'électricité soient interdites pour tous et tout au long de l'année et qu'il y ait donc ce service d'alimentation minimale en électricité. Donc, à la place de couper, eh bien, les consommateurs puissent avoir une puissance minimale à leur domicile pour continuer à utiliser leurs appareils électriques.
Voilà, je rappelle qu'il y a eu 178 000 coupures d'électricité, 87 000 de gaz au cours de l'année 2023, autant de drames pour les foyers concernés. L'association de consommateurs CLCV demande également au moins 100 euros de plus pour le chèque énergie. Vous vous prononcez sur ce point-là?
C'est une décision politique. Il faut savoir que le chèque énergie, c'est 150 euros en moyenne pour 5,8 millions de foyers, qu'il est en place depuis, de mémoire, 2019, que son montant n'a jamais été réévalué. L'électricité, les tarifs réglementés de vente d'électricité ont augmenté de près de 50% depuis fin 2021. Bon, voilà. Après, c'est une décision politique, mais oui, enfin, il faut se poser la question, en tout cas, d'augmenter le montant du chèque énergie.
Mais en tant qu'autorité indépendante, j'imagine que vous faites des suggestions au gouvernement. Si vous aviez une priorité à suggérer, ce serait laquelle ?
Bon, c'est celle sur laquelle on a communiqué, hein, c'est le droit à une alimentation minimale en électricité.
Merci beaucoup Frédéric Ferriot d'avoir répondu aux questions de France Inter, directrice générale du médiateur national de l'énergie.
Dans l'actualité aussi ce soir, les agriculteurs qui protestent contre la concurrence déloyale des fruits et légumes importés et contre le manque de transparence de la grande distribution à l'heure où les premières tomates françaises arrivent dans les rayons. Ils reprochent aux magasins de ne pas bien indiquer la provenance de leurs produits. Des actions ont été menées dans des grandes surfaces à Brest, à Rennes, à Agen ou encore au Pontet dans le Vaucluse, où les agriculteurs Adèle Bossard sont venus dénoncer la vente de tomates marocaines.
Les producteurs vauclusiens avaient remarqué la veille des centaines de ces barquettes de tomates marocaines. Sauf qu'au moment de l'opération, plus rien. Et le directeur du rayon assure aux agriculteurs qu'il n'en vend plus.
Journalièrement, vous en avez tous les jours. Ce matin, vous n'en avez pas. Je pense qu'ils sont dans le frigo.
On va aller voir, mais en fait, non, franchement, on n'était absolument pas au courant que vous veniez, mais alors absolument pas.
Et pourtant...
Les gens d'ici ont quand même eu la gentillesse d'ouvrir les frigos et on les a trouvés, il y en a des palettes.
Des palettes de barquettes de tomates Azura à 99 centimes, avec une origine bien cachée, même cette consommatrice a du mal à trouver.
Espagne, Italie, plutôt Espagne, Azura...
Il y a une provenance qui est écrite dessus ou pas ?
Je sais pas, on n'a pas trouvé. Maroc ? Non, pas facile à trouver.
Et c'est justement ce que voulait montrer Vincent, producteur de tomates.
Ce qu'on veut dénoncer ici, c'est deux choses. C'est la tromperie pour le consommateur, parce que le consommateur était incapable de trouver l'origine de ce produit. Et la deuxième chose, c'est que c'est une concurrence complètement déloyale. Parce que nous, pour ramasser ces tomates-là, ben, la main-d'œuvre, ça coûte 17 euros de l'heure. Et pour ces gens-là, au Maroc, ça va coûter moins d'un euro.
Et avant de repartir, les producteurs ont ajouté des étiquettes origine Maroc, bien visibles sur toutes les barquettes de tomates marocaines.
Adèle Bossard de France Bleu, Vaucluse pour France Inter. À Sciences Po, les étudiants mobilisés vont-ils être contraints de quitter les lieux ? La préfecture de police demande l'évacuation de la voie publique près de l'école parisienne. Des tensions sont survenues ces dernières heures, alors que des étudiants protestent contre la guerre menée par Israël dans la bande de Gaza. Cela fait écho aux contestations qui agite certains campus américains. Jusqu'à 4 heures de retard, le trafic est perturbé sur la ligne TGV entre Paris et l'Est de la France. C'est une rupture de caténaire qui est en cause. Le rétablissement du courant devait avoir lieu dans l'après-midi, mais les trains sont contraints d'emprunter un autre itinéraire, ce qui entraîne des retards dans les deux sens et pas mal de pagailles en cette veille de week-end. Et puis on va découvrir maintenant le nouvel album de Luca Folisi. C'est le choix culture de France Inter. 22 ans, violoniste classique et des dizaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux. Il vient de sortir son deuxième album, une nouvelle version des 4 saisons de Vivaldi. Toujours chez Sony, la maison de disques, Stéphane Capron est tombé sous le charme de ce musicien surdoué.
Il y a 3 ans, Luca Folisi enregistre en freelance son premier album, Aria, autour de l'opéra. Il envoie le master à plusieurs maisons de disques, Sony le signe et sort l'album tel quel. Pour les 4 saisons de Vivaldi, le jeune violoniste a eu carte blanche. Il sait qu'il est attendu au tournant tant cette œuvre a été maintes fois enregistrée.
C'est un peu un réflexe parce qu'il y a des pièces aussi connues. On peut se dire, bon, je l'ai déjà entendu, je ne vais pas la réécouter, même si c'est un nouvel artiste, etc. Donc c'est un grand challenge. Pour nous, c'était vraiment une évidence qu'il fallait faire quelque chose de très différent. Et je pense sincèrement qu'il y a certaines choses, au moins dans chaque mouvement, qui n'ont jamais été faites dans les 4 saisons.
Luca Folisi a enregistré avec le Haut Orchestra. Il livre un album entre la tradition du baroque et une nouvelle recherche sonore.
C'est quelque chose de tout à fait immersif en fait. Et on a également rajouté des percussions, surtout dans la première saison, donc dans la Primavera. C'était très important pour nous de nous plonger vraiment dans quelque chose de très imagé, de lancer comme ça des émotions au micro.
Ce jeune violoniste surprend déjà par sa maturité musicale. On n'a pas fini d'entendre parler de lui dans les années à venir.
Stéphane Capron du service culture, et si vous voulez l'écouter en vrai, Luca Folisi sera en concert en juin à Royan et en juillet au festival de Radio France à Montpellier.
Avec plaisir, merci. C'était le journal de Céline Asselot. On va prendre des nouvelles du temps.
La météo avec Euromaster, toujours là pour entretenir les véhicules des pros. Automobiles, utilitaires, poids lourds, engins agricoles, Euromaster, votre partenaire confiance depuis plus de 30 ans.
Bonsoir Sébastien Léas.
Bonsoir Claire, bonsoir à tous.
Attention aux fortes pluies et aux orages demain.
Oui, on bascule dans une situation de flux de sud qui vont engendrer des pluies durables sur les Cévennes qui vont se mettre en place et persister jusqu'à lundi. Et dans ce flux de sud, des remontées instables et orageuses vont également toucher une large partie ouest du pays, entre les Pays de la Loire, le sud du bassin parisien, le centre-val de Loire et la Nouvelle-Aquitaine. Alors le matin, les averses seront localisées mais pourront déjà être orageuses et progressivement, l'intensité va s'accentuer pour donner de fortes averses, des orages voire de la grêle. C'est entre le Limousin, le Poitou et le nord de l'Aquitaine que les orages risquent d'être les plus forts demain. Par débordement, quelques averses finiront leur course sur les Hauts-de-France, l'Est de la Bretagne et la Normandie. Les régions de l'Est bénéficieront d'un temps plus calme, mais les éclaircies seront souvent timides, même si le soleil fera de belles apparitions entre l'Alsace, la vallée du Rhône et la Provence.
Et les températures sont en hausse.
Oui, après 11 jours sous les normales, les maximales retrouveront des valeurs de saison sous l'impulsion de ce flux de sud. Le vent sera d'ailleurs fort entre la Provence, le Languedoc et le Massif central avec des rafales violentes du midi toulousain à l'Auvergne. Pour demain après-midi, il fera 14 degrés à Brest et à Caen, 16 degrés à Lille, 17 degrés pour Paris, Bordeaux, La Rochelle et Montpellier. On attend 18 degrés à Toulouse, 19 à Nancy et Biarritz, 20 degrés pour Lyon et Marseille, 21 degrés à Strasbourg et jusqu'à 23 degrés à Ajaccio.
Merci beaucoup Sébastien Léas de Météo France. À tout à l'heure.